décryptage. Anne Corpet.
Liz Truss sera demain première ministre de la Grande-Bretagne. C'est la troisième fois qu'une femme dirigera le pays après Margaret Thatcher et Theresa May. À 47 ans, Liz Truss a déjà une longue et tortueuse carrière politique. Elle assume ses revirements et affiche un libéralisme sans frein. Mais la nouvelle première ministre prend la tête d'un pays en crise et va affronter de sérieux défis. L'inflation atteint 10% et risque de grimper encore en flèche. Les mouvements de grève se succèdent. Elle arrive aussi au pouvoir dans un contexte international compliqué avec la guerre en Ukraine et la gestion de l'après-Brexit. Alors quels sont ses projets? Parviendra-t-elle à répondre aux préoccupations des Britanniques? Quelles sont ses positions sur la scène internationale? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Décryptage. Bienvenue et ravie de vous retrouver. Et avec nous en studio pour brosser le portrait de la nouvelle première ministre britannique et étudier son programme, Catherine Coron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique à l'université Panthéon Assas, membre du centre de recherche Crewe à l'université Sorbonne Nouvelle, auteur de « Les programmes du New Deal au Royaume-Uni pour une nouvelle donne du marché du travail ». C'est paru aux presses universitaires de Lorraine. Merci d'être venu jusqu'à ce studio. Nous sommes aussi en ligne avec Florence Foncher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à Sciences Po, directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée, auteur de plusieurs ouvrages sur les partis politiques et les institutions britanniques. Merci d'être avec nous. Et je vous propose tout d'abord d'écouter Liz Truss. Elle s'exprimait tout à l'heure après la proclamation des résultats.
Tout au long de cette course à la tête du parti, j'ai mené campagne comme une conservatrice. Je vais maintenant gouverner comme une conservatrice. Je vais présenter un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie. Je vais m'attaquer à la crise énergétique en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi en m'occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie. Et je m'occuperai aussi du système national de santé. Je sais que nous allons préparer sans relâche une grande victoire pour le Parti conservateur en 2024.
Florence Foncher, avant de commenter cette première déclaration de Liz Truss, est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser son portrait? Elle se dit conservatrice, mais elle ne l'a pas toujours été, hein.
Non, absolument. Elle a un parcours qui a commencé plutôt sur la gauche, en tout cas au centre. Et elle a également fait campagne en faveur du Remain. Donc, sa conversion à des positions de plus en plus conservatrices, libérales, notamment en termes économiques, est relativement récente. C'est après le Brexit et surtout avec son rapprochement avec Boris Johnson.
Alors, on vient de l'entendre, hein, Liz Truss veut réduire les impôts. Son opposant dans la course, Rishi Sunak, lui, avait mis en garde les électeurs pendant la campagne contre ce qu'il appelait les contes de fées réconfortants de Liz Truss. Or, on vient de l'entendre, elle a dit non seulement qu'elle voulait réduire les impôts, Catherine Coron, mais en plus qu'elle voulait aider les Britanniques à faire face à leurs lourdes factures d'énergie. Ça vous paraît réaliste ?
Pas du tout. Je pense que le problème de la pénurie énergétique est mondial. Et donc, il faudra que Liz Truss soit à même de s'accorder avec l'Europe. Et la question principale, c'est justement, arrivera-t-elle à avoir un discours plus mesuré que celui de Boris Johnson, de façon à ce que la politique énergétique soit... On a besoin de conciliation, on n'a pas besoin à l'heure actuelle, enfin ce serait dangereux pour le Royaume-Uni d'avoir un Premier ministre qui ait tendance à jouer seulement pour son camp et pas avec les autres.
Et surtout que le contexte est très tendu sur le plan social actuellement en Grande-Bretagne.
Oui, à cause de l'inflation. Le problème, c'est l'inflation, c'est le coût de la vie. Il y a ce mouvement « enough is enough ». Ils en ont assez.
C'est assez.
Ils en ont assez parce que ça fait très longtemps. C'est un problème structurel. En 2016, nous avons fait une enquête en comparant les personnes qui travaillent en France et au Royaume-Uni. Et déjà au Royaume-Uni en 2016, donc bien avant le Covid, les personnes se plaignaient de ce problème de coût de la vie qui était plus élevé. Rappelons-le, il y a un welfare state qui est beaucoup moins important.
Un état-providence.
Voilà.
Alors, Florence Foncher, comment... votre avis, Truss va affronter ce mouvement de contestation parce que les syndicats annoncent qu'ils entendent se concerter entre eux pour mener leur mouvement de grève?
Bien sûr, mais c'est là, je pense, que l'invocation de Margaret Thatcher est pour elle très importante et elle peut espérer peut-être, en tout cas, elle s'imagine peut-être qu'elle va pouvoir, comme Margaret Thatcher dans les années 80, prendre des positions fortes dans une confrontation avec les syndicats. Mais la période est très, très différente et la situation n'est pas du tout la même. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les dernières semaines donc, de campagne se sont jouées pour obtenir le suffrage des adhérents du Parti conservateur, des adhérents âgés, masculins, du sud de l'Angleterre.
Blancs.
Donc un électorat très particulier. Là, à l'avenir, il va falloir désormais qu'elle s'intéresse à l'ensemble de la population britannique et donc qu'elle traite en quelque sorte avec les syndicats, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle choisisse une position de confrontation, de la même façon qu'elle risque de choisir des positions de confrontation avec l'Union européenne. Et en un sens, elle a appris les avantages de ce genre de position de son mentor de ces dernières années, Boris Johnson.
Alors, vous faisiez allusion à Margaret Thatcher, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu une telle agitation sociale en Grande-Bretagne depuis les années 80, depuis l'époque de la Dame de Fer. Et Liz Truss, Catherine Coron, a vraiment cultivé pendant la campagne sa ressemblance avec la Dame de Fer. Elle a emprunté à plusieurs reprises ses codes vestimentaires, mais sur le fond, vous pensez aussi qu'elle va tenter de copier son intransigeance. On se souvient de la position extrêmement dure de Margaret Thatcher.
Si elle le fait, je pense qu'elle ce sera une erreur de sa part, parce qu'il y a effectivement un contexte de stagflation, c'est-à-dire stagnation de l'économie, voire recul sur les mois qui précèdent, ainsi qu'une inflation, vous l'avez dit, à 10%. Je rappelle qu'en France, elle est à 6%.
Et Goldman Sachs prévoit, dans son pire scénario, une inflation qui pourrait grimper jusqu'à 22%.
Oui, mais par contre, Jerome Powell, le chef de la Fed, le 20 août, lui, pense plutôt que ça va... Les indicateurs aux États-Unis ne sont pas mauvais, en fait. Hein.
Bon, en tout cas, en Grande-Bretagne, voilà. la situation
Mais pour la Grande-Bretagne,
voilà,
plus le Brexit, plus le Covid, plus effectivement le coût de la vie, comme on l'a dit, et le manque d'État-providence. Toujours est-il que la façon dont Margaret Thatcher a géré la crise avec les mineurs, donc c'était la désindustrialisation à l'époque du Royaume-Uni, n'a rien à voir avec le problème qui concerne actuellement tous les Britanniques qui ont un problème pour payer leurs factures énergétiques. Certains ont décidé de ne pas régler tellement c'est élevé. Je pense que la situation économique au Royaume-Uni est bien plus grave qu'en France. Nous mesurons actuellement et nous craignons beaucoup pour tout ce qui peut se passer cet hiver. Et je ne suis pas persuadée qu'être intransigeant comme Boris Johnson l'a été et aveugle et puisse résoudre la situation. À l'époque de Margaret Thatcher, c'était vraiment une partie des travailleurs très particuliers. Une partie
les
très
mineurs.
Particulière, les mineurs. Alors que là, on a quasiment tout le monde qui est concerné et souvent plutôt des personnes qui travaillent pour le gouvernement, les cheminots du métro de Londres, des personnes...
Il y a les éboueurs, il y a les avocats, il y a tout un tas de professions
qui sont en grève. Ils pensent justement continuer leur mouvement en septembre et le développer, sachant que l'année dernière, il ne faut pas oublier que ça fait déjà un an que la situation est en crise au Royaume-Uni, alors que nous avons un décalage. Et donc, je ne suis pas persuadée que l'intransigeance, je suis même certaine que l'intransigeance n'est pas la bonne formule.
Et d'autant, Florence Fauché, que Margaret Thatcher, elle, avait une idéologie. Hein. Ça ne semble pas être le cas de Liz Truss. Sa carrière donne l'impression qu'elle sert avant tout ses ambitions. Donc, vous la croyez capable de finalement changer le ton très dur hein, qu'elle a adopté à l'égard des syndicats et de négocier?
Non, en fait, je ne pense pas du tout qu'elle va tout d'un coup devenir conciliatrice. Ceci dit, ce qui est important pour elle, c'est de préparer les élections de 2024.
Oui, elle l'a dit dans sa déclaration, d'ailleurs.
Absolument. Et pour cela, il reste donc finalement relativement peu de temps, donc 2 ans. Dans 2 ans, il lui faut redresser la situation économique, mais aussi répondre aux inquiétudes d'un électorat qui dépasse de très loin l'électorat tout petit dont je parlais tout à l'heure. La victoire très forte de Boris Johnson en 2019, qui donne à Liz Truss à l'heure actuelle une bonne majorité au Parlement de 80 députés environ, s'appuyait sur des promesses de rééquilibrage, et notamment de rééquilibrage nord-sud, ce que les Britanniques appelaient, et ce que le gouvernement conservateur appelait le leveling up. Or, on se rend compte que depuis cette période-là, il n'y a pas eu véritablement de leveling up, et qu'une partie de ces budgets a été à nouveau consacrée au sud de l'Angleterre. Donc, il va y avoir certainement une forte déperdition et un rejet du politique très important, et une confrontation comme on en parlait tout à l'heure, et peut-être quelque chose qui peut l'intéresser dans la mesure où cela permet de mobiliser ses troupes, mais cela marche surtout dans la mesure où l'opposition peut être présentée comme dangereusement gauchiste, ce qui était le cas quand Boris Johnson était opposé à Jeremy Corbyn, ce qui a été le cas pour Margaret Thatcher à une époque, notamment durant la confrontation avec les mineurs, avec une démonisation en quelque sorte des syndicats. La situation à l'heure actuelle est très différente parce qu'il n'est pas du tout clair que les syndicats soient en position d'être démonisés en quelque sorte, présentés comme véritablement des entités non démocratiques qui travaillent pour leur propre intérêt. Là, on a effectivement l'impression que la situation et les inquiétudes économiques sont partagées bien au-delà des secteurs et des travailleurs qui sont syndiqués, et la difficulté sera pour Liz Truss également de convaincre les petites entreprises et les moyennes entreprises dont la facture énergétique a considérablement cru et qui se trouvent extrêmement fragilisées que le Parti conservateur est capable de résoudre cette crise qui s'annonce.
Alors, Liz Truss a tenu, et comme son prédécesseur Boris Johnson, une personnalité plutôt sans filtre, mi-août, une conversation révélée par The Guardian illustrait sa vision de l'économie. Ses propos ont été tenus en 2012 et elle était à l'époque la numéro 2 du Trésor britannique. Je voudrais qu'on écoute cet extrait révélé par The Guardian.
Les travailleurs britanniques produisent moins que les autres et c'est une question de compétences et d'application. Il y a un problème fondamental dans la culture du travail en Grande-Bretagne. Si vous voulez être un pays plus riche, plus prospère, il faut changer cela. Mais je ne pense pas que les gens sont prêts à changer cela.
Alors, ces propos ont été jugés évidemment offensants par le Parti travailliste. Ils font passer les Britanniques pour des paresseux. Se sont-ils indignés? Catherine Coron, est-ce que Liz Truss peut conserver ce ton et mener son parti vers la victoire en 2024, comme elle l'a affirmé aujourd'hui?
D'abord, il faut repartir sur le contexte de l'inflation qui fait que le pouvoir d'achat, donc les personnes travaillent et ont moins, peuvent moins acheter moins. Et donc, il y a le problème des salaires qui se posent et qui est effectivement posé par, qui était posé par Jerome Powell, qui veut les sacrifier. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle va sacrifier ces personnes qui travaillent? Alors, la question du travail au Royaume-Uni est complexe. La productivité par personne est depuis très longtemps structurellement faible.
Elle n'a pas tort, alors, quand elle dit que...
Elle n'a pas tort, mais il y a une raison qu'on peut trouver. C'était l'un des points de ma thèse il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que ce sujet existe et pose problème. C'est qu'en fait, les études sont très chères. Et donc, les personnes ne sont pas portées à investir dans leurs études. Quand vous regardez des PDG comme celui de Virgin qui réussit sans faire d'études. Et donc, la question des compétences, elle a raison sur le point. Après, sur la façon et sur les explications,
ça va être compliqué.
Elle a tort parce que ce qu'il ferait mieux, c'est de permettre aux Britanniques d'avoir ces compétences. Ce qu'avait d'ailleurs essayé de faire Boris Johnson au moment de la pénurie des travailleurs, des personnes qui travaillaient dans le transport, des chauffeurs routiers, il avait essayé de former des personnes Et c'est effectivement la réponse. C'est former des personnes, c'est pas de dire aux personnes qu'ils sont paresseux. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on aborde un petit peu le positionnement de Liz Truss sur la scène internationale. Alors, ses positions dures, notamment sur le Brexit, risquent de tendre encore plus la relation du Royaume-Uni avec l'Europe et la France. Interrogée le 25 août par une journaliste qui lui demandait si elle considérait Emmanuel Macron comme un ami ou un ennemi, la candidate a d'abord marqué une hésitation et puis elle a répondu ceci.
Le jury est toujours en train de délibérer. Si je deviens Premier ministre, je le jugerai sur ses actes, pas sur ses mots.
Alors évidemment, cette esquive n'a pas été du goût d'Emmanuel Macron. On va vers de sérieux problèmes, a-t-il réagi, si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami et ennemi, ou ennemi, pardon. Florence Fauché, il y a de nombreux contentieux à régler entre la France et la Grande-Bretagne. Est-ce que Liz Truss va vouloir chercher un compromis ?
Pour l'instant, ce n'est certainement pas quelque chose qui se dessine de cette manière-là. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette prise de position a été prise pendant la campagne. Donc, à un moment où son audience privilégiée était le Parti conservateur et le petit électorat qu'elle cherchait à séduire et pour lequel... Depuis plusieurs années, depuis Brexit, il est très clair que des positions très offensives à l'égard de l'Union européenne et en particulier de la France sont extrêmement populaires. Donc là-dessus, on peut imaginer qu'une fois qu'elle soit aux manettes, elle se conduise un peu plus comme l'allié que la Grande-Bretagne est traditionnellement vis-à-vis de la France. Maintenant,
sur l'Europe, ça va être plus compliqué parce qu'elle est l'architecte tout de même de la loi qui vise à passer outre l'accord signé par Londres avec Bruxelles sur l'Irlande du Nord.
Et je pense que ça sera surtout avec tous les partenaires européens qu'elle va être quelqu'un de très compliqué. Aussi parce qu'une partie de sa popularité dans son parti et dans l'espèce d'équilibre qui est en place depuis Brexit est liée à cette idée que la Grande-Bretagne va... C'est une façon de justifier en quelque sorte la décision du Brexit et l'idée que la Grande-Bretagne s'en sortira mieux contre les Européens qu'avec. Donc là-dessus, je pense qu'elle va continuer à avoir des positions fort intransigeantes et on s'inquiète un petit peu du déclenchement de l'article 16 dans les jours qui viennent à propos de l'Irlande du Nord.
Alors d'ailleurs, a signalé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dit espérer de Liz Truss le respect des accords avec l'UE, mais donc cela s'annonce compliqué. Quid de la relation entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, Catherine Coron? D'après le Financial Times, Liz Truss a mis en question les bases de cette relation spéciale entre les deux pays.
Et les États-Unis?
Oui.
Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas diplomate. On aurait besoin d'une personne diplomate, comme était Theresa May avant, peut-être trop diplomate. Et là, être conservateur de nos jours, ça veut dire être intransigeant. Et elle est dans la ligne de Boris Johnson.
Et populiste.
Et populiste. Alors populiste jusqu'à un certain point, parce que elle ne privilégie pas le pouvoir d'achat des gens.
Est-ce que tout cela, très brièvement, Catherine Coron, pour conclure, ne risque pas d'isoler un peu la Grande-Bretagne encore plus ?
De l'isoler et surtout, moi je suis inquiète sur le plan économique, de ne pas résoudre ces problèmes, ce qui sera aussi pour nous un problème parce que tous les pays sont liés maintenant.
Catherine Coron, merci d'avoir été avec
merci
nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Panthéon Assas et membre du centre de recherche de Crewe à l'université Sorbonne Nouvelle. Merci également à vous, Florence Fauché, professeure à Sciences Po, directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée. Merci à Claude Battista pour la réalisation de cette émission et à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à la préparer. Décryptage, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure sur RFI.